À mes côtés ce matin pour présenter les journaux, Sébastien Guyot sera là au demi et Rémi Botsaron sera là aux heures. Ça revient à dire, puisqu'il est pile 7 heures, que je lui passe tout de suite le micro. Rémi, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
La mise au point du président est un très grand soulagement. Il y avait des risques de décompensation des gens qui, n'ayant plus le goût à rester vivants, eh bien, se laissent glisser dans la mort.
Le soulagement d'Axel Kahn après la mise au point de l'Élysée hier soir. Il n'y aura pas de discrimination envers les personnes âgées à partir du 11 mai. Elles ne seront pas obligées de rester confinées.
Le nombre de personnes hospitalisées est en baisse en France, mais le combat continue pour les soignants. Vous allez l'entendre, ils sont épuisés physiquement et aussi moralement.
La Chine a-t-elle menti dans sa communication au sujet du coronavirus? Les États-Unis le pensent, ils le disent, et ils ne sont plus les seuls à présent. La France et le Royaume-Uni expriment à leur tour leurs doutes.
On s'est félicité de la coopération de la Chine avec la communauté scientifique internationale. Et puis aujourd'hui, on commence à se réinterroger sur ces questions.
Et puis vous faites peut-être partie de ceux qui ont ou qui vont fabriquer leur propre masque en tissu. Eh bien, désormais, vous pouvez bénéficier des conseils d'un éminent spécialiste. Ça se passe sur Internet. On vous l'explique à la fin de ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les personnes âgées, 65 ans ou plus, ne seront donc pas obligées de rester confinées après le 11 mai. La précision, très attendue, est venue de l'Élysée hier soir.
Oui, alors qu'un certain flou régnait après les déclarations d'Emmanuel Macron lundi et celles du président du conseil scientifique devant le Sénat mercredi, l'Élysée l'affirme désormais. Le président de la République ne souhaite pas de discrimination. Il en appellera à la responsabilité individuelle. Un soulagement pour l'un de ceux qui s'étaient révoltés contre cette hypothèse d'un confinement prolongé pour les personnes âgées, le généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer.
La mise au point du président est un très grand soulagement. Parce que, à la Ligue contre le cancer, nous avons reçu un nombre considérable de coups de téléphone de gens qui demandaient « Mais c'est pas possible, est-ce que l'on pourra revoir la fleur, l'accueillir sur la pelouse? Est-ce que l'on pourra ressentir le vent sur nos joues ?» Un printemps, un été, c'est formidable. Mais pour les personnes dans les EHPAD, imaginez que c'est peut-être le dernier ou un des tout derniers qu'on nous en prive, c'est insupportable. Il y avait des risques de décompensation des gens qui, n'ayant plus le goût à rester vivants, eh bien, se laissent glisser dans la mort. On va les protéger, c'est-à-dire on va leur dire, écoutez, faites attention, si vous sortez, n'allez pas à des endroits où il y a du monde, mais leur interdire un bout de chemin au bord de la rivière et de se promener dans le parc. Honnêtement, cela a été inimaginable. Donc, ça y est, ces gens sont soulagés et je suis soulagé pour toutes ces personnes.
Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, interrogé par Théo Manval.
En attendant ce possible déconfinement progressif à partir du 11 mai, donc, le gouvernement se prépare à affronter les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Le budget de crise a été voté à l'Assemblée nationale à 3h30 cette nuit. Il intègre le plan de 110 milliards d'euros annoncé, notamment pour venir en aide aux entreprises et aussi pour offrir une prime aux soignants.
Et des soignants qui sont toujours en première ligne dans les hôpitaux, même s'il existe quelques motifs d'espoir, alors que l'épidémie a déjà fait plus de 18 600 morts en France, le nombre de personnes hospitalisées baisse, le nombre de personnes en réanimation aussi, mais la lutte continue pour les soignants qui sont à bout de force, physiquement et psychologiquement, comme a pu le constater Sophie Echen.
On a peur en fait d'affronter cette deuxième vague. Déjà la première nous fatigue énormément, donc on ne sait pas vraiment comment on va gérer la deuxième.
Déjà 5 semaines qu'Alice, infirmière en unité Covid à Paris, est sur le front. Des nuits de 4 ou 5 heures contre des journées de 12 et un stress intense. Le sien évidemment, mais aussi celui de ses collègues, des patients et de leur famille. Des signes de fatigue et de faiblesse se font sentir.
Psychologiquement on est épuisé en fait. On commence des fois à perdre patience. On a comme des palpitations dans les yeux. On a l'impression que la paupière bat en fait. C'est des signes comme ça.
Mais surtout, ne pas craquer, martèle Alice, car si le nombre d'hospitalisations continue de baisser, l'épidémie, elle, est toujours là. Alors certes, l'accalmie permet aux soignants de souffler un peu, mais il reste très marqué par ces derniers jours, reconnaît Marc Noisé. Il est chef de service des urgences de Mulhouse.
Ce qu'on vit aujourd'hui n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on a vécu pendant 5 semaines. Cette submersion était véritablement incroyable, et notamment sur les patients graves qu'on a intubés. Jusqu'à 20 patients dans la même journée pour la même pathologie, c'était quelque chose d'inimaginable. Il n'y avait rien de rationnel dans ce qu'on faisait et on n'était pas prêt à ça.
Le docteur Noisé l'assure, il y aura un contre-coup avec des doutes et cette question, dit-il, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour accompagner ces patients?
Les témoignages recueillis par Sophie Echen.
Et les soignants donc continuent à se battre contre le Covid-19, alors que certains doivent déjà penser à l'après, Rémi.
Oui, on pense à la reprise de la vie économique, notamment certains commerces se préparent à rouvrir, c'est le cas du côté du groupe Etam, la fameuse enseigne de prêt-à-porter et de lingerie. Laurent Milchior est le co-gérant de ce groupe, il était hier soir au micro d'Europe 1, Europe 1 d'Emmanuel Dutheil dans l'interview Écho.
On pense qu'on ouvrira un certain nombre de magasins le 11 mai. Moi, mon scénario, c'est qu'on ouvrira probablement pas tous nos magasins le 11 mai. C'est pas sûr que les zones très denses seront réouvertes. La priorité, c'est clairement, c'est de soigner les malades et de pas saturer le système hospitalier. Donc, c'est en fonction de ces courbes-là qu'on verra là où on peut réouvrir nos magasins. Donc, on a pris un certain nombre d'hypothèses. On est obligé, nous, de préempter les décisions et d'équiper nos magasins. Donc, on va avoir des masques, des visières, du nettoyage de magasins, des compteurs qui permettront de limiter, le cas échéant, le nombre de personnes dans le point de vente. On est en train de se poser la question sur les cabines. On change notre cérémonial de vente pour pas s'approcher trop des clientes, etc., etc. Le click and collect disponible à l'entrée du magasin pour éviter de rentrer à l'intérieur du magasin. Donc, on a pris comme ça un certain nombre de mesures qu'on est en train de mettre en place et on a dû commander le matériel pour la réouverture.
L'explication de Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam, au micro d'Emmanuel Dutheil.
Et Donald Trump, il a décidément du mal, semble-t-il, avec les idées de confinement ou de distanciation sociale.
Oui, il a demandé cette nuit à la reprise des meetings et de sa campagne, puisque c'est selon lui très bon pour le pays. Trump qui s'en est pris de nouveau à la Chine également, après les États-Unis, c'est la France et le Royaume-Uni qui s'en prennent à ce pays originaire du coronavirus. Sa gestion de la crise et sa communication sont ouvertement critiquées. Manifestement, des choses se sont passées qu'on ne sait pas. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron cette semaine. Alors pourquoi les pays européens se retournent-ils à leur tour contre la Chine? Explication avec Jean-Jacques Herry.
Ce revirement est en partie une question d'affect. Les pays européens font aujourd'hui un constat amer, ils n'arrivent toujours pas à juguler la contagion. Alors ils se retournent vers la Chine, le pays d'origine du virus, par qui ils estiment avoir été leurrés. En effet, selon Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, Pékin a avant tout utilisé la crise sanitaire pour soigner son image internationale.
L'envoi de masques, par exemple, a été quelque chose d'important. On s'est félicité de la coopération de la Chine avec la communauté scientifique internationale. Et puis aujourd'hui, que l'on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes, on commence à se réinterroger sur ces questions.
Pour les Occidentaux, et même si c'est dit à mot couvert, la Chine aurait sciemment sous-évalué le nombre de malades. Et c'est dans ce contexte déjà tendu que l'ambassade de Chine en France a publié dimanche dernier sur Internet un texte vantant la réussite du gouvernement de Pékin dans sa lutte contre le Covid-19. Selon Emmanuel Linco, chercheur associé à l'IRIS, ce texte a été perçu comme une provocation.
En donnant la leçon aux Européens qui prétendument laisseraient leurs personnes âgées mourir dans les EHPAD, enfin, on lit des choses absolument hallucinantes et qui vont dans le sens d'une infantilisation des interlocuteurs de la Chine.
L'épisode a valu à l'ambassadeur chinois une convocation au Quai d'Orsay et montre bien l'isolement grandissant de la Chine. Si Pékin continue de nier toute dissimulation, seule la Russie lui a clairement affiché son soutien cette semaine.
Les explications de Jean-Jacques Herry. C'était une annonce attendue par des centaines de milliers d'étudiants. On sait désormais quand auront lieu les épreuves des concours d'entrée des grandes écoles. Elles seront reprogrammées entre le 20 juin et le 7 août. L'annonce a été faite sur Europe 1 hier soir par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
On ne sait pas encore si le port de masque sera obligatoire à partir du 11 mai dans certains espaces publics, comme les transports en commun par exemple. Mais déjà, beaucoup préparent leur propre équipement chez eux.
Oui, même si Emmanuel Macron a déjà promis que chaque Français aurait droit à son masque grand public, vous êtes nombreux à avoir pris les devants et à avoir commencé la fabrication de masques, des masques en tissu, et c'est une bonne idée. Si c'est bien fait, Virginie Salmen s'est renseignée auprès d'un éminent spécialiste.
Les masques en tissu, même ceux qu'on fabrique nous-mêmes, avec ou sans machine, ne sont pas du tout des masques au rabais, estime le professeur Bertrand Dotzenberg. Il évalue même assez précisément leur performance.
Le plus mauvais des masques bien utilisés, c'est plus de 50% de protection. Et dans les masques qui sont proposés, qui répondent aux normes, on est à 60-70%, même avec les problèmes d'utilisation qui sont faits, les petites fuites qui peuvent avoir sur les côtés. Sachant que le tissu, lui, doit protéger à 70%.
Il faut trouver le bon tissu, ni trop filtrant, ni trop opaque pour pouvoir respirer. Avec un bon masque, vous aurez du mal à respirer en montant un escalier, mais aucune gêne si vous le portez assis au repos. Votre masque en tissu doit comporter 2 voire 3 couches et il faut éviter quelques erreurs comme le masque à filtre amovible, déconseillé, explique Marine Prevet du collectif Couturière Solidaire.
Les filtres qui sont employés ne sont pas du tout des choses qui sont conçues pour être respirées. Donc on a vu pas mal de tutos qui circulent avec des filtres d'aspirateurs. Il faut vraiment savoir que ces matériaux ne sont pas du tout préconisés pour être respirés.
Et puis, il faut apprendre à mettre son masque sans le toucher, en le tenant juste par les élastiques, et se constituer un stock d'une douzaine de masques en prévision du déconfinement, puisqu'il faut le renouveler toutes les 4 heures et que dès qu'on le touche avec la main, il faut en changer.
Et vous pouvez retrouver ces conseils et des tutos, des explications sur un site qui s'appelle tout simplement montissumasque.com, tout attaché à montissumasque.com.
Montissumasque.com, j'irai faire un tour là-dessus à la fin de la matinale pour voir à quoi ça ressemble. Merci beaucoup. C'était le premier journal de cette tranche de samedi, celui de 7h avec Rémi Botsaron qui revient tout à l'heure à 8h. À tout à l'heure Rémi, merci.